Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Mercredi 15 octobre 2025, 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllabe sur le 88.4 FM et DAB+, et peut-être en streaming partout dans le monde. Petite question autour de la table, est-ce que ça vous arrive de parler à l'IA de temps en temps?
Of course.
Ouais, oui, oui, oui.
J'espère que vous parlez plus souvent à des vrais humains quand même.
Ouais, ouais, t'inquiète.
Okay. Et ben, en tout cas, en tout cas, sachez que bientôt, ce sera possible de le faire en breton. Pas de réaction, ok, super.
Si, sympa, sympa.
Oui, oui. Un projet baptisé COLAF a été présenté hier par des chercheurs et chercheuses de l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Leur but, promouvoir l'utilisation des langues régionales dans le numérique et donc, surtout, dans la génération de voix artificielles. Donc, si ça vous branche, vous pouvez aider le projet. Les scientifiques ont besoin de locuteurs et locutrices bretons et bretonnes. Votre mission, si vous l'acceptez, vous enregistrez en train de parler sur une plateforme. Ces données vont permettre d'entraîner les modèles et de leur apprendre des langues régionales. L'étude va commencer par l'alsacien, RPZ Strasbourg, et se penchera ensuite sur le breton avant de décrypter d'autres langues d'outre-mer notamment. Pour apprendre le breton aux machines, rendez-vous sur colaf.uma-num.fr. Tout de suite en français, désolé, le journal d'Estelle.
Quatre cercueils remis dans la nuit. Le Hamas semble avoir tenu sa part du marché dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël. Problème, seuls trois des dépouilles ont été identifiées comme des otages. Le quatrième corps ne correspondait à aucune des victimes recensées par l'armée israélienne. Le ministère de la Santé gazaoui, lui, déclare avoir reçu 45 corps de martyrs aujourd'hui, sur 90 au total. Côté aide humanitaire, l'ouverture du point de passage de Rafah reste incertaine. L'ONU et l'OMS confirment que les camions de médicaments et de nourriture entrent toujours au compte-gouttes. Après la jeunesse népalaise et malgache, la Gen Z péruvienne s'enflamme. Départ de la classe politique, abrogation des lois accusées de favoriser le crime organisé, mesures contre la vague d'extorsion touchant plusieurs secteurs du pays, étudiants, syndicats, transporteurs et collectifs citoyens s'insurgent contre la crise sécuritaire traversant le pays. Quand la présidente Dina Boalarté a été destituée par le Parlement parce qu'elle n'est plus moralement apte à gouverner. Son remplaçant, José Géry, doit assurer l'intérim jusqu'aux élections générales prévues en avril. Rafael López, maire ultra-conservateur de Lima, est déjà en tête des sondages. Les militaires s'implantent bel et bien à Madagascar. L'armée a annoncé avoir pris le pouvoir hier, renversant le président Indri Rajoelina, accusé de corruption et de népotisme. Un conseil de défense nationale de transition est désormais à la tête du pays. Le nouveau chef promet une période de transition de 2 ans avec un gouvernement provisoire. Un premier ministre de consensus choisi en concertation avec la Gen Z doit être nommé. Depuis plusieurs semaines, les jeunes malgaches réclament la fin des coupures d'électricité, des inégalités et d'un système politique qu'ils jugent à bout de souffle. Déserts médicaux, réforme des retraites, décentralisation, le cornu fixe sa ligne. Hier, pendant sa déclaration de politique générale devant le Sénat, il a reconnu un budget plus que perfectible, déposé en urgence pour respecter le calendrier constitutionnel. Appelant au compromis, il souhaite sortir de la crise par le haut. Mouvement continu de décentralisation, aucune fermeture d'hôpitaux publics en 2026, envoi de jeunes médecins dans les déserts médicaux, refonte de la planification énergétique, fin de la vie chère en Outre-mer, tout semble possible pour le Premier ministre. Concernant la réforme des retraites, suspendue jusqu'en 2027, Sébastien Lecornu souhaite organiser une conférence nationale auprès des acteurs sociaux dans les prochaines semaines. Une impression de déjà-vu nous ramenant au gouvernement Bayrou. L'offre a été recalée, mais le dossier n'est pas fermé. Hier soir, dans un communiqué commun, Bouygues, Free et Orange ont déposé une offre conjointe pour espérer racheter leur concurrent, SFR. la somme proposée 17 milliards d'euros pour acquérir la plupart des actifs de l'opérateur, l'Afken fait le récap.
Le patron de la maison mère de SFR Altice France rassure ses troupes. Aujourd'hui, Arthur Dreyfus l'a assuré à ses 8000 salariés, l'offre de rachat a été immédiatement rejetée. Pourtant, les négociations semblent loin d'être terminées. Hier soir, le directeur général de Bouygues, Olivier Roussat, a bien souligné que cette enchère n'est que la première étape d'un long processus. En effet, il s'agissait d'une offre non engageante, cela permet de négocier le prix de rachat avant d'aboutir à une offre définitive. De son côté, la CFDT a publié un communiqué, le syndicat sous-entend qu'un rachat de SFR n'est pas impossible. Il exige malgré tout des garanties concrètes dans le cas d'une reprise de l'opérateur. Pour mieux comprendre la situation qui agite le secteur de la télécommunication, il faut se rappeler de nos cours d'économie au lycée, je vous propose un cours historique. En 2014, le milliardaire Patrick Drahi rachète SFR pour 13,5 milliards d'euros et il crée Altice France. Pour cet achat, Drahi mise sur un LBO.
Mais c'est quoi un LBO, l'Afken ?
Un LBO, c'est un Leverage Buyout, Estelle. Pour faire simple, Patrick Drahi acquiert SFR via une société dite holding, Altice France. Et pour rembourser son emprunt, Altice France utilise les bénéfices de la compagnie rachetée, donc SFR. Cependant, le plan échoue et Patrick Drahi endette Altice France et SFR de 24 milliards d'euros. SFR devient donc une proie pour toutes les entreprises de télécommunications, comme Bouygues, qui avait raté l'achat de SFR en 2014. Grâce à un accord et un échange de parts, Patrick Drahi réussit à diminuer la dette à 15,5 milliards. Une baisse, certes, mais un chiffre toujours bien trop important pour les actionnaires. En parallèle, depuis 7 ans, Drahi misait sur la suppression de 7000 emplois et une filiale marocaine au salaire 10 fois moins élevé. Voilà où nous en sommes, le bateau SFR a frappé l'iceberg de la dette à pleine vitesse. Tout le monde quitte le navire, les actionnaires demandent à revendre leur part pour 8 milliards d'euros. Et en 2024, SFR a perdu 343 000 clients sur le mobile et 87 000 sur les offres fixes.
Mais alors quel serait l'impact d'un rachat de SFR sur les clientes et les clients en France, l'Afken ?
Eh bien, les premières et premiers concernés, ce sont les salariés de SFR. Pour la CFDT, le scénario à venir serait le démantèlement de SFR entre plusieurs entreprises de télécom. Selon le délégué syndical de la CFDT-SFR, les 6000 à 8000 salariés de SFR pourraient voir leur emploi disparaître. Pour lui, le seul intérêt des trois opérateurs, c'est d'augmenter leur marge, se partager 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires sans penser aux salariés. Des salariés donc peu intéressants, aux yeux de Bouygues, Free et Orange. Les opérateurs pourraient miser sur une large suppression de postes pour rembourser la dette de SFR. Et du côté des consommatrices et des consommateurs, aucune certitude pour l'instant. Si un rachat de SFR devait avoir lieu, alors la France n'aurait que 3 opérateurs sur le marché. Autrement dit, ce monopole pourrait mener à une hausse des prix pour les plus de 20 millions de clientes et clients. Face à ces craintes, le nouveau ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, affirme qu'il serait extrêmement vigilant quant à l'impact sur le prix des consommateurs et l'impact sur la qualité de services en cas de rachat d'SFR.
Merci l'Afken, et le 4 novembre marquera probablement un tournant dans ce dossier. En effet, la CGT et le CFDT ont fait appel des décisions de reconstruction financière proposées par Patrick Drahi. Affaire à suivre. Interpellation à Marseille dans le cadre du narcotrafic rennais. 4 personnes ont été interpellées hier, dont le bras droit du chef du clan Yoda, réseau marseillais. Les suspects seraient impliqués dans une série de règlements de comptes violents survenus ces derniers mois dans le quartier de Villejean, à Rennes. Les 4 délinquants ont été transférés dans la capitale bretonne et placés en garde à vue. Depuis plusieurs mois, la dalle de Villejean subit les fusillades, combat d'une guerre entre le clan Yoda et la DZ Mafia. Affaibli par ces affrontements et de nombreuses arrestations, le clan chercherait à reprendre la main sur le marché de la cocaïne à Rennes. Pour finir sur des notes encore plus glaciales, les Vieilles Charrues ont annoncé le thème de leur édition 2026, le Cercle Polaire. La 34e édition du festival aura lieu du 16 au 19 juillet. Et hier, les 10 premiers noms sont tombés. La tête d'affiche, une vraie star planétaire, Katy Perry pour sa Soldate en Bretagne. Vous pourrez aussi profiter de Gims, Josman et Binkarens, mais aussi de la légende Nick Cave pour un concert exceptionnel de 2h30. Autre nom, mais pas des moindres, Mika et le rappeur Orelsan, lui aussi pour sa Soldate bretonne. Il se produira après Feu Chatterton. Ce n'est pas Katy Perry qui sera sur la scène du Triangle ce week-end, mais le chorégraphe Sylvain Riejou et le dessinateur Hervé Waldeck. Les deux artistes s'associent pour présenter le spectacle Le Poisson, qui vivait dans les arbres. Entre danse, théâtre et dessin animé, il s'adresse aux enfants à travers une épopée écologique. Romane est allée à la rencontre de Thomas Duménil, responsable de la communication du Triangle, qui nous en dit un peu plus sur le contenu de ce spectacle.
Trois mots, je dirais poésie, humour et aventure. C'est une épopée qui fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles, donc deux amis, Hervé et Johan, qui aiment se promener tous les deux dans la nature. Et donc ça part dans un univers un peu réel comme ça, et petit à petit, le rêve va commencer à s'installer. Et voilà, j'en dévoile pas plus, mais c'est une traversée de différents milieux naturels, différents biotopes, à la rencontre du monde animal. Les deux personnages dialoguent, mais petit à petit, le texte laisse la place à la danse et à l'image.
Il y avait un arbre.
Et ça, je pense que c'est très important de parler de l'arbre au début de notre histoire.
La poésie est dans le récit du spectacle, mais elle est aussi beaucoup dans les dessins d'Hervé. Les dessins d'Hervé Waldeck, c'est des dessins au trait noir sur fond blanc. Très simple, mais pas simpliste. Donc, comme je disais, ils sont animés. Donc, il y a ce jeu entre la danse et entre les deux personnages et puis ce fond qui s'anime. Je pense que c'est un très beau message justement dans le rapport à l'environnement, à la nature, au monde animal, de s'émerveiller de choses simples. Il n'y a pas besoin d'aller ou de voyager très loin pour se laisser toucher par la nature et le monde animal. Donc voilà, c'est ce message-là qui est un message très écologique et très, très humaniste.
Le poisson qui vivait dans l'arbre, c'est demain à 10h30 ou à 14h30 et vendredi 17 octobre à 14h30 et 19h. Rendez-vous au Triangle, cité de la danse.
Merci Estelle pour ton flash.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et on passe à l'interview. Casquette vissée sur la tête, Nathan Depayé est assistant au développement de la vie étudiante et des campus à l'université Rennes 2, donc au service de la vie étudiante. Il vient nous parler d'un dispositif démocratique et très peu commun dans les universités, si ce n'est unique. En tout cas, je crois qu'il l'était à son apparition. C'est le budget participatif. Bonsoir Nathan.
Bonjour, bonsoir, pardon.
Bonsoir, bonjour, on ne sait plus à quelle heure on est, c'est pas très grave. C'est quoi le budget participatif ?
Alors le budget participatif de l'université Rennes 2, comme tu l'as évoqué, c'est effectivement un projet qui... l'université de Rennes 2 était la première université à mettre en place ce projet. Ce projet est un dispositif porté par les élus étudiants avec le soutien du service vie étudiant, du service com et de la direction de l'université Rennes 2. Et il permet de financer des projets d'aménagement et d'amélioration de la vie étudiante de Rennes 2 grâce à une enveloppe de 50 000 euros qui provient de la CEVEC, donc la fameuse contribution vie étudiante et de campus, qui est l'enveloppe des 105 euros payée par chaque étudiant étudiante en début d'année scolaire.
Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu aux origines de ce budget participatif ? Quand est-ce qu'il a été créé ? On l'a dit, c'était un dispositif unique en France quand il est apparu. Qui a eu cette idée ? Qui l'a porté à l'origine ?
Alors, à l'origine, donc ça provient à la fois d'initiatives du bureau des étudiants à l'époque, donc des élus étudiants, et aussi une volonté de la direction. Ça a été mis en place sur l'année universitaire 2017-2018. Et à l'époque, c'est 90 projets qui avaient été déposés, une forte participation. C'est un projet qui avait beaucoup plu et qui s'inspire effectivement des budgets participatifs qu'on peut voir à l'échelle de collectivités, comme la ville de Rennes par exemple. Et donc voilà, c'était aussi le but de recentrer un petit peu pour développer des initiatives étudiantes au niveau des campus de Villejean, Mazier et du campus de la Harpe.
Ok, et donc tu l'as dit, la première année, il y a 90 projets qui ont été déposés. Est-ce que c'est un peu un chiffre stable d'année en année ou est-ce qu'il y a eu des évolutions ?
Alors, il y a eu plusieurs évolutions. Donc, il y a eu un effet Covid aussi entre les deux, hein, forcément. Là, pour l'année dernière, par exemple, c'est 39 projets qui ont été déposés et 11 qui ont été mis au vote.
Okay.
Et donc, 8 projets ont été lauréats au terme de participation de 5400 étudiants et étudiantes qui ont voté pour ces projets.
Pas mal.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets qui ont été votés et financés et réalisés l'année dernière ?
Oui. Bah, l'année dernière, par exemple, c'est des projets de prises électriques qui ont été votés pour mettre des prises électriques sur les trois campus, dans les amphis notamment, pour que les étudiants justement puissent brancher facilement leurs différents appareils électroniques.
Plutôt utile.
Oui, effectivement. Il y a eu différents autres projets qui vont être... Donc, chaque projet va prendre un peu de temps à être mis en place dans l'année prochaine et dans les 2 ans à venir. Mais donc, c'est des projets autour des fontaines à eau, de financement de couverts réutilisables, de chaises adaptées aux personnes qui ont des TDAH. Voilà, un projet d'Olympiade interlicence aussi. Des porte-manteaux dans les toilettes, des casiers supplémentaires et des sifflets repousse-relou, qui est un dispositif qui a déjà été du coup mis en œuvre sur les trois campus.
Ok. Et donc, tu nous as dit, c'est une enveloppe de 50 000 euros chaque année. Est-ce que c'est la même chose cette année ? On sait que l'université traverse un peu une crise financière. Est-ce que ça a un effet sur cette enveloppe du budget participatif ou pas ?
Alors, l'enveloppe de 50 000 euros est maintenue pour cette année. Mais effectivement, il y a une réflexion actuellement autour de la possibilité sur la récurrence du budget participatif qui pourrait être mené tous les 2 ans au lieu de chaque année.
D'accord. Est-ce que, vous voyez ça de quel œil ? Est-ce que vous pouvez un peu avoir de l'influence pour que ça reste quand même chaque année ? Ou c'est vraiment quelque chose qui sera décidé par la fac et les élus étudiants n'auront pas vraiment leur mot à dire si ça vient à être espacé comme ça ?
Bah pour le coup, tout ça relève du budget de la CEVEC.
D'accord.
Qui est piloté par les étudiants. Donc pareil, c'est une spécificité de l'université Rennes 2. Il me semble qu'on est la seule université où le budget de la CEVEC est géré par les élus étudiants. Donc derrière tout ça, donc il y a le service de vie étudiant qui accompagne justement les élus étudiants, les différentes commissions pour la répartition du budget CEVEC. Mais pour le coup, il y a vraiment clé en main dans les mains des représentants étudiants. Mais effectivement, les budgets baissent un peu partout et donc effectivement, c'est des difficultés justement à pouvoir répartir au mieux cet argent.
Alors, cette année, on est toujours sur 50 000 euros. Concrètement, comment on fait pour proposer un projet ? Quel genre de projet on peut proposer ? Est-ce qu'il y a des besoins en particulier ? Est-ce que vous, au bureau de la vie étudiante, vous poussez pour certains projets ou pas du tout, vous ne vous prononcez pas ?
Pas du tout. On ne se prononce pas. On laisse vraiment libre cours aux idées des étudiants et étudiantes. Donc, l'idée, c'est que le budget participatif, ça se passe en 3 phases.
Ok.
Une première phase qui a commencé le 6 octobre dernier, qui se finira dans 3 semaines, le dimanche 9 novembre. Et donc, qui est la période où les étudiants et étudiantes peuvent déposer des projets sur le questionnaire qui est retrouvé sur l'ENT, dans vie étudiante, animation des campus et budget participatif. Et donc là, en quelques lignes, donc c'est juste mettre un titre au projet, une petite description, évaluer un budget un peu à la louche. Donc voilà, en 5 minutes, un projet peut être déposé, et donc c'est libre cours aux étudiants et étudiantes pour déposer ces projets.
Ok, ça peut venir d'associations étudiantes aussi, ou est-ce que c'est vraiment que des étudiants particuliers, j'ai envie de dire, qui peuvent proposer des choses ?
Alors, pour tout ça, donc ça va être soit des associations qui vont porter ces projets, des collectifs d'étudiants, ou des étudiants individuels.
Ok, est-ce que vous avez déjà beaucoup de propositions là, tu sais déjà ?
Actuellement, là, on a déjà une dizaine de propositions qui ont pu être soumises depuis déjà 15 jours. Mais du coup, il reste 3 semaines et on sait que généralement que c'est plus à l'approche de la deadline que les projets tombent.
Donc... Ok. Est-ce que tu peux peut-être préciser certains critères peut-être à respecter ou qui ont plus de chances d'être votés ?
Bah, le but de ce budget participatif, c'est que les projets profitent au plus grand nombre. Donc ça va pas forcément être les projets qui vont viser spécifiquement un BDE ou une association et ses membres, par exemple, vont pas forcément être mis en place. Le but, c'est que ça profite au plus grand nombre et que ça réponde à un besoin collectif des étudiants et étudiantes du campus.
Et comment se passent les votes après ? Quelles sont les personnes qui se réunissent ? Il y a des débats ? Comment ça marche ?
Alors justement, du coup, on parlait de cette fameuse première phase entre octobre et le dimanche 9 novembre, qui est la phase de dépôt de projet. Et après, entre novembre et janvier, il y a toute une, toute une phase où les services d'université et les élus étudiants étudient ensemble l'éligibilité pardon, et la faisabilité des projets qui ont été déposés.
D'accord. Donc, c'est-à-dire s'ils sont réalisables avant de dire si c'est eux qu'on choisit.
C'est ça. Bon, en fait, cette phase-là, c'est vraiment une phase de, on va dire, de tri par rapport à ce qui est réalisable donc avec les études des services qui vont apporter l'expertise sur ces sujets. Et ensuite, à l'issue de cette phase, à partir du 26 janvier 2026, on va proposer encore une nouvelle fois aux étudiants de voter cette fois pour les projets qui auront été retenus par cette pré-commission. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était 11 projets sur les 39 déposés qui avaient été mis au vote des étudiants et étudiantes, et c'était 8 projets qui avaient été acceptés.
Pour voter, on fait comment ?
Alors, pour voter...
Ce sera dans un petit moment, mais on peut déjà en parler.
Oui, bien sûr. Bah, du coup, ce sera une phase de 15 jours entre le 26 janvier et le 8 février. Ce sera sur l'ENT, mais aussi il y aura un mail à ce moment-là aussi qui va circuler pour appeler les étudiants et étudiantes à voter pour les projets qu'ils ont envie de voir mis en place sur les campus.
Super. Et du coup, l'annonce, elle sera faite fin février, c'est ça dans ces eaux-là.
Ouais, courant fin février, on n'a pas encore la date, mais on fera une remise un petit peu, une soirée spéciale autour du vote de ces projets. Donc les résultats seront présentés lors de cette cérémonie et à laquelle l'ensemble de la communauté étudiante seront invités.
C'est un projet unique, on l'a dit. J'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que représentant du bureau de la vie étudiante, de cet exercice démocratique, de cette proposition qui est faite aux étudiants et étudiantes. Comment vous voyez la chose ? Pourquoi c'est important d'avoir ce genre de choses ?
Alors déjà, du coup, maintenant, c'est un projet qui a été... plusieurs universités ont suivi le pas de l'université Rennes 2 et ont mis en place. Parce que ce qui est bien, c'est que justement, les universités aussi dialoguent entre elles pour travailler aussi à développer les initiatives étudiantes sur les campus. C'est vrai qu'à l'université Rennes 2, on a quand même de la chance d'avoir un campus assez riche en termes d'initiatives étudiantes, de vie associative. Et donc le but, c'est à la fois que les services de l'université, avec les représentants associatifs étudiants et les étudiants, du coup, travaillent ensemble pour la mise en place de projets à destination des étudiants et étudiantes.
Super. Vu qu'il nous reste un peu de temps, est-ce que tu peux nous parler un peu du bureau de la vie étudiante, nous expliquer à quoi il sert, comment est-ce que les étudiants et étudiantes peuvent venir, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une petite confusion avec... Donc, moi, je fais partie du service de vie étudiant.
Le service de vie étudiant, c'est ça que je voulais dire, le bureau.
Oui, parce que du coup, il y a justement...
Il y a un bureau et un service.
Oui, il y a le CVE qui est justement un peu le groupe des élus étudiants.
D'accord.
Qui, justement, sont les élus et qui œuvrent pour la vie étudiante.
D'accord.
Et qui siègent dans différentes commissions.
Donc, ma question concernait le service.
Ouais, alors le service de vie étudiant, donc nous sommes 5 dans le service, donc Karine Tilliac est la directrice du service. On propose du coup différentes actions pour les étudiants. Donc on a Julie qui s'occupe du FSDIE, qui est le Fonds de solidarité aux initiatives étudiantes, et qui du coup accompagne les associations de Rennes 2 dans le montage de leurs assos, dans le financement de leurs projets. On a Maud et donc moi qui l'assiste sur tout ce qui est CVEC, donc la contribution vie étudiante et campus. Donc ça, c'est la répartition justement et la gestion de ces budgets pour que ça profite aux étudiants et étudiantes, à tous et toutes, exactement. Et on a Christelle qui est plus du coup sur les missions un peu sociales du service de vie étudiant, donc en lien avec des missions de soutien aux étudiants et étudiantes en situation de vulnérabilité. Donc ça peut être de la précarité numérique, de la précarité alimentaire, des difficultés pour se loger, notamment.
Ok, donc il ne faut pas hésiter à peut-être aller la contacter, venir la voir pour si on a des questions, des besoins, des difficultés.
Carrément, nous, au service de vie étudiant, on ouvre au point info étudiant, au bâtiment EREV, donc de midi à 17h, tous les jours de la semaine, il y a quelqu'un pour vous accueillir, répondre à vos questions, vous aiguiller, pour vous aider aussi dans vos démarches et dans les problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien.
Merci beaucoup Nathan. Donc je le rappelle, si vous voulez proposer un projet, ce que vous voulez pour le budget participatif, pour qu'il soit, il devienne concret dans votre université. Vous avez jusqu'au dimanche 9 novembre. Voilà, allez sur le site, sur l'intranet, I guess, étudiant. Vous trouverez assez facilement, je pense, en farfouillant. Et puis, le reste du calendrier, il est dispo en ligne. Ce sera jusqu'à fin février qu'il faudra un peu vous mobiliser pour voir tous ces projets devenir réalité.
C'est ça. À retrouver, du coup, sur l'ENT, vie étudiante, animation des campus et budget participatif.
Super. Merci beaucoup, Nathan.
Merci beaucoup à toi.
6 heures avant minuit.
6 heures avant minuit.
It's Chronic Time. On est mercredi, c'est le jour des sorties ciné et désormais, Jeanne va revenir en chronique sur un film qu'elle a vu pour nous donner ou non l'envie d'aller le voir. Le film d'aujourd'hui, c'est La Palme d'Or 2025, un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi.
Est-ce que la vengeance répare les blessures et les traumas? Si vous croyez reconnaître votre tortionnaire au coin d'une rue et que l'occasion vous est donnée de vous venger, est-ce que vous y allez? Est-ce que vous le faites? C'est l'une des grandes questions qui traverse le film « Un simple accident ». Le titre du film prend tout son sens dès les premières minutes. Une famille roule de nuit, au volant le père, très sérieux, à côté la mère, enceinte, et derrière une petite fille de 5-6 ans environ. Dehors, on entend des chiens crier ici et là. On en aperçoit certains qui poursuivent des véhicules et qui s'enfoncent dans la nuit. La route, elle est cabossée et pratiquement déserte. Puis, un bruit, un choc et le gémissement d'un animal. Le père descend de la voiture pour voir. Il a renversé un chien et il est mort. On reprend la route dans le silence et l'inconfort. Et puis, un nouvel arrêt. La voiture cale et cette fois, c'est la panne. Alors, hasard de la vie ou destin scellé, la famille va atterrir, sans le savoir, chez Vahid. C'est un petit homme en bleu de travail d'une cinquantaine d'années avec une grosse moustache noire. Quand la famille arrive chez lui, il est à l'étage, personne ne le voit, mais du haut de son perchoir, il aperçoit la petite famille. Et là, il croit reconnaître son bourreau. Le père de famille porte une prothèse à la jambe et un petit bruit aigu succède tous ses pas. Vahid n'a jamais vu le visage de l'homme qui l'a torturé, mais reconnaît ce bruit entêtant. Alors, est-ce vraiment lui? Et si c'est lui, que faire? À partir de là, le film nous fait rencontrer bien d'autres personnages, eux et elles aussi victimes de ce supposé exécutant du régime iranien. Le récit réside dans ces deux grandes questions. Est-ce vraiment leur bourreau? Ou font-ils erreur sur la personne? Et si cet homme est bien le cruel militaire qu'il pense, comment le traiter? En sortant de la salle, j'ai plusieurs sensations. Le questionnement d'abord. Comment ont-ils tourné ce film? Le récit, il est contemporain. Le tournage, il est fait en Iran, et là-bas, le régime islamiste traque les opposants. C'est littéralement l'histoire du film. Je sors de cette salle en pensant à ce tournage interdit, et plus j'y pense, et plus ça saute aux yeux. Les scènes, elles sont nocturnes, ou alors tournées depuis un véhicule. La caméra, elle est presque jamais sortie en public. Et la deuxième sensation, c'est la fatigue. Le film, il est très lent. L'intrigue reste suspendue jusqu'à la dernière scène du film. Et finalement, c'est tout ce temps pour permettre à ces personnages d'exploser, de crier leur douleur et leur colère. Chacun d'entre eux, à son tour, va avoir son moment. C'est comme si, à travers ce film, Jafar Panahi tentait de soulager l'injustice et de donner le temps aux victimes du régime de pouvoir crier leurs blessures.
Merci Jeanne. À mercredi prochain pour parler d'un nouveau film, Roman. Ça va Roman? On t'a pas entendu aujourd'hui.
Si, le PAD.
Est-ce que tu pourrais vérifier le répondeur s'il te plaît?
Ouais.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Téléphone. Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Je crois qu'il y a un message aujourd'hui.
Ah, merci Roman.
Un message très profond d'ailleurs.
On l'écoute.
Coucou, c'est juste pour tester que la ligne fonctionne. Parce qu'on se posait la question. Bisous, bisous.
Ah bah, ça fonctionne Timothée, je confirme. Non mais je me suis dit que vu qu'on t'entendait pas souvent, c'était l'occasion. Parce que normalement, c'est pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, Timothée est à la technique en régie, donc on n'entend pas sa voix. Mais oui, ça fonctionne, donc laissez-nous un message. Vu que ça fonctionne, je vous redonne le numéro 02 30 96 25 35. Quelque chose à rajouter, Roman? Pour pourquoi les gens doivent nous appeler. J'ai envie d'entendre ta voix aujourd'hui.
Parce qu'il faut nous laisser...
Des arguments, s'il te plaît.
C'est la fin de journée, là.
Oui, bon, bah, laissez-nous un message, on vous écoute, on diffusera ça à la fin de l'émission, à la place de ce moment où on n'a rien à dire, mais on doit dire des trucs. Merci Maud pour la technique, à demain dans 6 heures avant minuit.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllab,
la radio sauvage.